Les best-sellers du Hadith. Les trois recueils les plus importants de cette liste, à savoir le Sahih de Bukhari, le Sahih de Muslim et le Muwatta de l'imam Malik, surnommé le maître de Médine, sont des best-sellers de la littérature religieuse. On les trouve dans toutes les mosquées du monde et dans toutes les librairies. Parfois, ce ne sont pas moins que plusieurs volumes reliés, de plusieurs formats et paraissant simultanément dans plusieurs maisons d'édition. Le premier de tous est le recueil de Bukhari, 810-870, de son vrai nom, Abu Abdallah Muhammad ibn Ismail al-Jufi, mais apparenté à la ville de Bukhara où il est né. Bukhari a voyagé dans plusieurs pays et rencontrer plusieurs transmetteurs de hadith, muhadithun. Son but était de collecter le maximum de hadith, en vérifiant au préalable leur teneur et leur véracité. Si un hadith lui paraît douteux, il préfère ne pas l'inclure dans son recueil, qui, pour cette raison même, a acquis une réputation qui ne s'est jamais démentie. C'est une œuvre gigantesque de plus de 9000 citations contenues dans 8 tomes en arabe qui existent désormais en français, en 4 volumes. Traduite et publiée à Paris, chez Leroux, de 1903 à 1917, rééditée depuis soit en 1977 par la librairie d'Amérique d'Orient Adrien Maisonneuve, par Octave Houdas et William Marsay, pour les deux premiers volumes et par Octave Houdas seul après le décès de Marsay pour les deux autres volumes. Cette œuvre de Bukhari est connue par les spécialistes sous son titre habituel de Sahih al-Bukhari, l'authentique de Bukhari. Pour le public français, les deux traducteurs ont cru bon de donner un titre plus ample, Les traditions islamiques, car il est plus explicite. Pour se faire une opinion personnelle, voici un hadith extrait de l'œuvre de Bukhari. Il en est trois à qui Dieu n'adressera pas la parole, qu'il ne regardera pas, qu'il ne purifiera pas, et qui auront un châtiment douloureux. L'homme qui, en cours de route, ayant plus d'eau qu'il n'en a besoin, refuse l'eau à un voyageur. L'homme qui, prêtant serment de fidélité, ne le fait qu'en vue d'un profit terrestre et qui, alors, ne tient pas ses engagements. Enfin, l'homme qui, débattant le prix d'une marchandise après l'heure de l'après-midi, équivalent à la prière Asr, jure par Dieu qu'elle a été payée par lui telle ou telle somme en sorte que l'autre la prend à ce prix. Bukhari, l'authentique tradition musulmane, Fasquelle, 1964, page 162. Voici d'autres hadiths authentiques que l'auteur a extraits du même recueil. Le Sahih de Bukhari. Abu Amr-Ash Shaybani a dit « Le maître de cette maison, Abdallah, m'a raconté ceci. Je demandais au prophète quel était l'acte le plus agréable à Dieu le Très-Haut. C'est, me répondit-il, la prière faite à l'heure canonique, et ensuite, la piété filiale, et après cela, la guerre sainte en vue de Dieu. Abdallah ajoute, le prophète a dit cela, mais si je lui avais demandé de m'en dire davantage, il l'aurait fait. Amr ibn Shuhabil rapporte que Abdallah ibn Mas'ud a dit, j'ai interrogé l'envoyé de Dieu pour savoir quelle était la faute la plus grave aux yeux du Seigneur. C'est, me dit-il, de donner un associé à Dieu, car c'est lui qui t'a créé. Volume 4, chapitre de l'unité de Dieu. Le second est le Sahih du théologien de Nishapur, Muslim ibn Hajjaj. Né vers 816 et mort vers 873, Muslim ibn Hajjaj a laissé une œuvre que tous les musulmans érudits compulsent régulièrement car elle leur fournit de nombreux commentaires inédits sur la jurisprudence et sur le droit musulman. Ces deux recueils canoniques de hadith ne sont pas les seuls, mais ils sont les plus cotés. À voir tous les traités de doctrine musulmane des siècles passés, on peut se dire que le plagiat était courant. Cela est vrai pour de nombreux ouvrages récents qui singent ceux des anciens, mais cela serait parfaitement injustifié pour cet ouvrage. Malik ibn Anas est né vers 711 à Médine. Il serait mort en 796. Cet enfant du 8e siècle est également l'inventeur de l'école malikite qui domine aujourd'hui au Maghreb et dans une partie de l'Afrique. On lui doit un livre de jurisprudence islamique, fiqh, intitulé Al-Muwatta, le plat chemin, la plaine, généralement attribué à ses disciples, au moins pour ce qui est de la collation des textes et de leur publication. La doctrine de l'imam Malik est celle qui était suivie dans les villes saintes au 8e siècle, tant à la Mecque qu'à Médine. Cet aspect est essentiel, car on découvre l'attitude des premiers musulmans dans des domaines aussi divers que le mariage, nikah, la guerre sainte, djihad, ou le dogme lui-même. Il est sans doute le premier à avoir établi que la viande halal doit être purifiée par le boucher ou l'éleveur qui doivent prononcer le nom d'Allah au moment de l'immolation, tasmiya. Al-Muwatta contient un chapitre conséquent sur les règles de la vente et du troc, ce qui est somme toute assez cohérent avec la société marchande qui fut celle de l'Arabie au moment de l'avènement de l'islam. Enfin, une grande diversité de thèmes est abordée en fin d'ouvrage. Il s'agit des noms du prophète, de ses qualités physiques et psychologiques, des vêtements qu'il portait, de son éducation, etc.
Pourquoi les recueils de hadith sont-ils si importants? Le Coran est censé être le seul texte sacré pour tous les musulmans. Les recueils de hadith ont pourtant pris une très grande importance chez les sunnites, tandis que les chiites avaient eux aussi leur propre recueil de hadith, dont Al-Kafi, le suffisant, d'Al-Kulayni, mort en 940. Alors, pourquoi une telle importance dans un cas comme dans l'autre? La raison principale est la suivante. Pour les musulmans qui se reconnaissent sous l'appellation de sunnites, il s'agit tout simplement d'imiter le prophète, étant donné qu'il a été exemplaire tout au long de sa vie. L'autre explication est plus masquée. Le Coran étant difficile d'accès, l'islam populaire s'est donné des théologiens et des commentateurs plus accessibles afin de l'aider à trouver sa voie. D'où l'importance morale et pratique acquise par les traités de hadith et, partant, par ceux qui les ont collectés, dont Abu Huraira, mort en 677, Anas ibn Malek, le fils du maître de Médine, mort en 712, et Aïcha, morte en 677, l'une des épouses du prophète.
Enfin, pour être complet sur cette question, il faut préciser qu'il existe aussi des hadiths inspirés par Dieu au prophète Mohammed. Plus nobles que les hadiths ordinaires, plus saints aussi, hadiths Qudsi, ils forment un noyau extrêmement puissant au cœur de l'enseignement sunnite. À tel point qu'un auteur comme An-Nawawi, mort en 1277, de Damas, a cru bon de rédiger un ouvrage complet sur les 40 propos les plus vénérés, Arba'un An-Nawawiya, que l'on peut consulter en français dans la traduction de Louis Pouzet, Beyrouth, Dar el-Machrek, éditeur, 1982. Voici le premier de ces 40 hadiths. C'est l'intention qui donne sa valeur à un acte. En islam, la bonne intention, appelée niyya, conditionne la prière, l'aumône, le jeûne légal, le pèlerinage et tout autre acte majeur, comme le sacrifice, l'acte amoureux ou l'entraide. Et voici le 37e hadith qui montre que la religion doit être, d'abord et avant tout, une école de pardon. Dieu a fixé par écrit les œuvres, bonnes et mauvaises. Il en a donné, par la suite, une claire explication. Ainsi, l'œuvre bonne qu'on se propose de faire, sans la réaliser effectivement, est comptée comme une œuvre parfaitement bonne. Quant à celle qu'on s'est proposé de faire et que l'on a effectivement réalisée, elle vaut de 10 œuvres bonnes à 700 fois plus et bien davantage encore. Par contre, une œuvre mauvaise que l'on s'est proposé de faire sans la réaliser effectivement sera comptée par Dieu comme une œuvre véritablement bonne. Et si on la réalise effectivement, Dieu ne la comptera que comme une seule œuvre mauvaise.